22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Beurre FM. Nouvelle soirée sur les ondes avec votre émission Time Sport en ce mardi 20 avril. Auditeurs de Beurre FM, réagissez avec toute l'équipe en composant le numéro du standard, on le rappelle. Allez, pour tout le monde, le 0153483000 et aussi sur la Twittosphère avec toute l'équipe de Time Sport. Revenu de cette émission ce mardi soir, Florentino Pérez veut-il sauver le football avec la fameuse Super League? On accueillera exceptionnellement Faro, le dessinateur phare de la planète sport, sans oublier Olas et Nasser El Khaifi qui montent au créneau. Vraiment pas de club français dans la Super League. Ça, c'est la question des supporters français ce soir, mais aussi un Stephen Curry qui bat des records, le meilleur meneur peut-être de l'histoire de la NBA. Peut-être on va voir cela. C'est parti. Go go Time Sport.
Time Sport.
On n'oublie pas le numéro du standard, le 0153483000, et aussi sur la Twittosphère, vous pouvez réagir avec nous. Mesdames et messieurs, et aussi les plus jeunes et moins jeunes, on écoute Beurre FM, bien cramponné à la maison, ou même peut-être au travail pour certains, malheureusement, ou en vacances aussi. En tout cas, ce soir, avec moi pour m'accompagner, on aura Terence. Comment ça va, Terence?
Bonsoir, ça va très bien, merci, ravi d'être là, plein d'échanges, il y a plein de sujets. Ça va être une très belle émission.
Ah bah c'est super aussi, on l'espère, Terence.
C'est même prévu.
Oui.
C'est même une certitude.
On a Abdel en tout cas, c'est prévu. Abdel, comment ça va?
Ça va très bien, bonsoir à tous. Comme il a dit Terence, plein de sujets à aborder. Et comme d'habitude, impatient que ça débute, hein, c'est chaud là.
Eh oui. Plein d'infos. Et tout comme Fred, il va nous dégainer aussi les infos. Ça va, Fred?
Bonsoir, Bilal. Écoute, ça va déjà un peu mieux qu'hier. Hein.
Ouais.
Et toujours un peu chagriné, c'est sûr.
Ouais, bon, on va voir ça aussi avec le coach Tolé. Il est là avec nous. Bonsoir, ça va le coach?
Ça va impeccable.
Bonsoir, Claude.
On est en place.
Ok, on prend le chemin d'où alors? De Turin, de Milan, peut-être Paris, on y est, de Madrid, de Barcelone, on sait plus, de Londres, de Manchester, on va voir, allez, on y va avec le premier sujet de cette fameuse émission.
Time Sport. Le sujet des sociaux. Le sujet des sociaux.
Eh oui, les sociaux, je ne sais pas où ils sont en tout cas, hein, du côté de la plaine ibérique en Espagne. Et Florentino Pérez, justement, il veut sauver ce football à l'échelle mondiale, voire européenne. Mais on n'en sait pas plus. Abdel?
Ah ben, il était bien accompagné il y a 24 heures, voire 48 heures, par 11 autres clubs que celui qui préside, qui est le Real Madrid. Donc 12 clubs qui partaient à l'aventure. Mais d'une histoire qui était écrite, je pense, depuis un moment dans les petits papiers. Ils attendaient juste le bon moment pour sortir cette bombe-là. Et 48 heures après, voilà, le football, le monde du football avait peur. Et le souci, c'est que tout le monde commence à se désolidariser de ce projet-là.
Ah, carrément.
Parce que
parce qu'on a peur.
Non, parce qu'on a peur, je sais pas, mais peut-être que il y a des clubs qui ont fait attention et qui ont peut-être pris en compte le fait que les supporters en aient marre.
Ah oui.
Mais peut-être qu'à un moment donné,
oh, les supporters, tu les as vu crier quoi. Une centaine sur la Twittosphère. Ah,
Abdel, tu
ouais,
prends,
vas-y, Terence.
Tu prends, regarde Chelsea, il y a tous les supporters qui ont débarqué. Qu'on débarqué le long du siège.
Ah, carrément.
Finalement, Abramovich fait machine arrière.
Ouais.
T'entends la Porta qui a pas le soutien de ses sociaux. Bim, il fait machine arrière. Après, la problématique, c'est de se dire, effectivement, en moins de 48 heures, t'as un projet où chacun doit prendre 3 milliards et t'as la moitié des clubs maintenant qui se barrent. Donc, quid réellement ce que donne derrière l'UEFA par rapport à tout ça. Et après, il y a quand même des choses qui sont hyper étranges. Tu t'aperçois que le PSG, qui a une grosse manne financière, n'est même pas dans le concept.
Et peut-être ils peuvent pas pour le moment.
Et tu comment?
Peut-être ils peuvent pas pour le moment.
Non, mais c'est le foot business. C'est pour moi, pour répondre à ce que dit Terence. Et c'est peut-être important le fait qu'il y ait eu des réactions des fans qu'on prend pas du tout en compte depuis des années parce que il y a l'augmentation des places, c'est des publics qui sont de plus en plus aisés qui prennent place dans les tribunes, et là le fait qu'il y ait une ferveur populaire dans beaucoup de clubs de la part des virages, je trouve que c'est assez intéressant. Alors peut-être que ce n'est pas non plus la seule raison pour laquelle les clubs se désolidarisent, mais je trouve que voilà, on montre que on a besoin du foot populaire, et je trouve que c'est intéressant de pas perdre la Ligue des Champions, même s'il va avoir une réforme, mais ça c'est encore un autre sujet.
Alors Fred, on l'écoute. Merci Abdel, assez intéressant avec Terence.
Simplement, depuis quelques heures, on peut le voir, il y a des propriétaires de clubs qui se rendent compte qu'en fait c'était une fausse bonne idée, cette Super League. Ils se rendent compte qu'ils font partie de 12 clubs frondeurs, 12 clubs traîtres.
Il est fort ton mot. Non, Fred, non.
Qui prône en tout cas d'autres.
Ouais, Yannis, il est d'accord avec toi.
Hein. Qui prône l'élitisme, tout simplement. Et on sait très bien que qui est en tête de ce projet, c'est la famille Glazer de Manchester United. Et c'est
le pirate Florentino Pérez.
Simplement. Oh non, du respect pour Florentino Pérez quand même.
Où, Florentino
Pérez. Ah, Abdel, mais non. Alors, oui, vas-y, termine, Fred.
Par contre, Fred, ce que je trouve, tu vois, ce que je trouve effectivement, si c'est la famille Glazer qui est derrière, ils viennent quand même de virer Woodward. Leur président.
Ouais. Il va, non mais et il va finir la saison et il part à la fin de la.
La vraie question c'est.
Alors le coach étonné.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on reproche là?
Alors moi.
Non mais justement on reproche quoi? Non mais la création de cette Super League c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on reproche? Non,
faut aller au... C'est une révolution, tout simplement.
Mais une révolution, il n'en faut pas.
Niveau,
mais dans le football, je veux dire.
Ce qu'on refinance.
Oui, mais ce qu'on.
Ok, mais si demain, excuse-moi.
Je t'en prie.
Allez, vas-y, le coach étonné.
Si demain t'as une réforme de l'UEFA, d'accord, avec la même Ligue des Champions qui t'annonce la même manne financière que a envie d'avoir les gros cylindrés.
Ce sera pas une ligue fermée.
Non mais c'est même c'est pas le problème.
C'est pas l'argent le problème. C'est la ligue fermée.
Mais bien sûr c'est l'argent le problème.
Mais il dit qu'elle sera pas fermée, Florentino Pérez. L'argent est le problème, c'est juste une question
d'oseille. Hein.
Mais bien sûr c'est une question d'argent.
Parce que demain si t'as West Ham qui doit jouer la Ligue des Champions,
ah ben
ça va faire chier si ça fait sauter City pour
une ligue fermée. Demain si tu fais une ligue fermée avec 1 euro de recettes pour les clubs, il se passera rien.
Non mais de toute façon on a vu que les rivalités là elles étaient carrément mises de côté quand on voit que Florentino Pérez limite il prêche pour la paroisse du Barcelone, du Barça, en disant que eux ils perdent tant d'argent et que au final des clubs eux commencent à monter au fur et à mesure. Tu sens que oui, il y a un problème financier. Après, le souci c'est, je pense qu'il y a un peu quand même de nostalgie. On va pas se mentir, la Ligue des Champions, elle est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais il y a eu combien de d'évolutions. Il y a eu des tours où il y avait deux phases de poules. Il y a eu une compétition où il y avait que les vainqueurs des championnats. Il y a eu plein d'évolutions comme ça.
Ouais.
Après, le problème c'est que il y en a qui font la guerre aux grands clubs parce que forcément quand t'es dans une ligue fermée, eh ben les revenus ils vont qu'à certains clubs et les clubs qui sont engagés, et au final déjà que tu touches pas beaucoup d'argent, eh ben là t'as plus rien. Mais pour moi le problème il serait encore plus profond, c'est-à-dire que on va aller loin, mais tu sors plus de joueurs en fait. Il y a plus de joueurs dans,
c'est la fin
des, c'est même pas le football amateur, hein, mais tu sors plus de joueurs. Tous ceux qui, je fais prendre l'exemple de la France parce qu'on est en France, mais des clubs comme Lille ou comme Rennes,
ouais,
où il y a eu des investisseurs, qu'est-ce que ça leur apporte maintenant de rester dans des clubs comme ça? Si,
mais il a dit qu'elle n'était pas fermée, sera pas fermée,
c'est un petit peu de la
saison.
Il fait ça en invitation. On est 6 dans le studio, voilà, on est 6. Alors, venez mes copains et je prends 4 personnes. Allez, venez, je suis gentil.
Bon, s'ils ont effectué une bonne saison, Abdel.
C'est comme ça que l'on fait là actuellement. Tout n'a pas été clair dans ce projet. Pour moi, dire qu'on a fait une bonne saison,
alors
c'est pas comme ça. C'est à travers des résultats. Là, tu peux finir 8e et on te dit, je te prends, alors qu'un 6e qui s'est tué, qui a pas forcément le même prestige que le 8e, eh ben, il est pas mis en avant. Et moi, ça me dérange personnellement.
Alors,
tout simplement, comment?
Oui, Fred.
Comment veux-tu rivaliser dans un championnat national avec une équipe qui a 500 millions de budget, une équipe qui en a 15 millions? C'est en fait ce système-là, il est hors système. Et comme il est hors système, c'est pas bon pour tous les autres clubs. Il n'y a pas que 20 clubs en Europe, je suis désolé. Il n'y a pas que 20 clubs en Europe.
Non, mais quand tu fais le comparatif, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Il y a déjà un décalage d'argent, non? Fred, tu dis de 15 millions à 500 millions. Le problème, c'est que ils veulent se renfermer sur eux-mêmes, que il y ait plus c'est dommage, c'est le football.
Ah ouais. Il y a plus de liens selon Abdel.
C'est là quand tu lis un petit peu ce qui se dit.
Ouais.
En fait, on en reste là. Et c'est vrai qu'ils veulent se renfermer. Moi personnellement, ça me fait clairement pas rêver d'avoir une ligue de ce type. Maintenant, pourquoi on en arrive là? On en arrive là parce que visiblement, d'après ce qui se dit, on parle quand même des gros clubs comme le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern et autres. Ce sont eux qui permettent à l'UEFA d'emmagasiner un maximum d'argent.
Visiblement,
ils sont dans leur droit.
De réclamer. C'est ça.
Le président de se dire, attendez, moi je.
Ouais, attends, j'apporte
4 milliards et t'es en train de me prendre 70%.
Mais. Non. Ils veulent la main sur les recettes.
Les chiffres, on les a pas.
Pas la main. Une partie peut-être sur les recettes. Une partie, Fred.
Ils veulent gérer en fait.
Non, mais il serait intéressant de savoir que fait l'UEFA aussi, avec les 60%.
Moi j'aimerais bien savoir que fait l'UEFA sur la formation. Abdel, tu es entraîneur, le coach tenait est entraîneur, Fred est entraîneur. Auprès du football amateur, quand même. Il faut en parler aussi. Oui, mais que fait?
Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont loin.
Ils sont loin.
Ils sont loin.
Ils sont loin
dans les. dans les préoccupations de.
On n'a jamais vu de logo dans les clubs.
Évidemment,
que ce soit en banlieue parisienne ou ailleurs.
Ils sont loin des préoccupations
de l'UEFA, de la Confédération de football européenne. Oui. Alors Terence, vas-y toi aussi.
Effectivement, je suis d'accord avec toi. On parle de l'UEFA, mais si tu cherches à le mettre à la mesure du football français, juste sur la FFF, sur les clubs amateurs. Désolé, t'as
ouais, mais alors.
Terence, merci.
Oui, mais le problème est. Alors, est beaucoup plus grand.
Là, si je veux là, juste faire le parallèle, là, tu prends cette
année. C'est la même chose,
Terence. Cette saison blanche, t'as combien de gamins, alors, de parents qu'on.
Mais je pense.
Qu'on crachait des 150 ou 200 balles
dans le système. C'est le même système.
Alors. Et là, tu demandes. Et là, les présidents sont en train de demander à la Ligue. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Parce que ça fait quand même deux saisons.
Où tu on en a reçu aussi des invités qui l'ont.
Tu payes des licences, et sauf que tu peux pas jouer. Et là, aussi. La Ligue dit.
Mais ça, le débat, là.
On ouais. attend.
Non, c'est le même raisonnement.
C'est juste débat, qu'on le met pas à la même échelle, mais ça reste du football. Et pour moi, ça doit être mis à la même échelle. À la même enseigne.
Parallèlement, tu es sur une échelle effectivement qui est plus basse parce qu'on part sur du football amateur par rapport à un institut qui est la FFF. Sauf que si tu le mets à l'UEFA, t'as pas de redescente, t'as rien. En termes de chiffres, les 70%, tu sais pas de quelle façon sont faits l'UEFA. T'as aucune recette. Comment tu peux légitimement vouloir taper un club 70% alors que derrière, bah, typiquement, tu prends les 12 gros clubs qui n'ont pas besoin de l'UEFA et leur disent allez vous faire voir.
Bah, ouais. Pas tant que ça.
Alors, on a Bouba qui est d'accord avec Terence ce soir, qui nous écoute.
Je suis carrément d'accord avec Terence. C'est le même raisonnement. Que l'on a en France, sauf que visiblement ça pose pas de problème. C'est comme si là aujourd'hui, demain, on se retrouve avec le PSG qui est au-dessus, mais bon, en termes d'institution française, le PSG, l'OM, Lyon, qui gueulent, forcément ils seront entendus, d'accord. Les clubs amateurs français, on les compare par exemple aux clubs de l'Est qui sont carrément exclus du monde du football du haut niveau, qui ont pas leur mot à dire. C'est exactement la même chose.
Non mais
c'est le même système.
Non, je dis pas que non mais quelque chose.
C'est là, le même système.
Non, mais là on est tous d'accord, c'est pas manichéen là l'opposition. Ouais. C'est pas une opposition. L'UEFA,
oui,
les bons samaritains qui prônent les valeurs du football et derrière non c'est pas comme ça. Bien sûr que l'UEFA doit se remettre en question et moi je pense que ce qui se passe là avec la Super League c'est peut-être un mal pour un bien et peut-être que là on pense aux supporters et moi quand je vois les supporters du Chelsea se plaindre, se manifester le fait qu'on vole le football, c'est des bonnes choses et c'est des choses qu'on a pas entendues depuis des années.
Mais heureusement que c'est les supporters de Chelsea. Mais les supporters des clubs, je le dis encore, des clubs de l'Est, ça fait depuis 15-20 ans, il n'y a plus rien, il y a la corruption à tous les sens, il n'y a plus rien.
Bien sûr.
Il n'y a plus rien. Et quand tu regardes la Ligue des Champions, même la Ligue des Champions aujourd'hui, admettons, tu n'as pas de Super League, tu restes sur nos formules de Ligue des Champions, on va se retrouver avec des groupes de 8-10. Et ça, quand on va dire que c'est la meilleure formule, on va retrouver les 8 mêmes, c'est la même chose.
Non,
au final, c'est le problème, il reste le même.
Non, mais c'est, je suis d'accord avec toi. De toute façon, ce sera jamais de le dire, mais s'il y a tout ce football, etc., c'est que les joueurs, ils ont bien été formés quelque part, donc dans le foot amateur. Après, on n'a pas envie de se prendre la tête avec des gens à qui on n'injecte pas de revenus, qu'on calcule pas depuis tant d'années, parce que voilà, c'est pas forcément intéressant.
Après,
ça fait pas rêver. Alors que si tu places pas forcément d'un point de vue financier, mais d'un point de vue footballistique tout simplement à la même échelle, c'est du foot en haut et c'est du foot en bas. Et Terence, il a dit, le problème c'est que tu mets de l'argent mais et t'en perds parce que là c'est la période de Covid. Là pareil, tu l'UEFA ils se sentent en panique parce que ils vont perdre de l'argent. Mais c'est toujours en fait ça se mord la queue en fait, c'est vraiment un problème. Ouais.
Mais il y a 14 majeurs avec la Covid.
C'est non mais attends,
moi je suis c'est histoire de Covid oui et non, c'est-à-dire que ça fait depuis un moment que c'est sur la table hein. C'est l'histoire de Super League hein.
Mais tu sais le timing a pas été
non,
bon pour moi.
Non, après,
ça arrive comme ça, il reste les demi-finales, il reste deux matchs plus la finale, trois matchs.
Regarde Abdel, si on doit faire le parallèle, tu prends juste effectivement. Là tu parles la Super League prend les 12 ou 15 plus gros clubs qui ont du pognon ainsi de suite.
Ouais.
Dedans t'as même pas le PSG, t'as pas le Bayern.
Ils ont l'air insolites ces clubs.
Ouais. Pour le moment,
je suis d'accord avec toi. Si tu fais le parallèle, on parlait des jeunes, tu fais le parallèle, tu prends aujourd'hui les championnats nationaux. Moi, j'ai des potes qui sont présidents de clubs, qui ne sont pas affiliés à des clubs pro. Bah, t'as les gamins, donc très souvent, les parents qui ont payé les licences, les gamins qui ne peuvent pas s'entraîner, qui sont quand même en moins de 17, en moins de 19 notes, tandis que toutes les réserves de clubs pro, ou ainsi de suite, eux, ont tous les centres qui sont ouverts.
Mais il y a des perdants, je suis d'accord.
Et les gamins peuvent s'entraîner. Et sauf que tu arrives toujours effectivement sur un côté élitiste, on revient à une échelle plus basse, sur une échelle du football français, qui reste, excusez-moi du terme, mais qui reste merdique, qui reste pourri. Comme moi, on a toujours connu ce système-là, et malheureusement, les choses avancent pas dans le bon sens. Ouais. Et tu prends là sur une échelle surdimensionnée à travers la Super League, et bah, tu t'aperçois que le foot, malheureusement,
c'est la même chose.
Mais c'est la même thématique. Et c'est quand même délirant quand tu vois que Woodward est en train de se barrer, et Agnelli de la Juve aussi.
Ouais.
Et d'un coup, en 48 heures, t'as soi-disant, t'as une...
Prise de conscience, tu penses?
Non, je crois pas.
Prise de conscience en quoi?
Après, t'auras jamais tous les tenants et les aboutissants.
Oui.
T'auras jamais tous les tenants et les aboutissants, mais tu t'aperçois que surtout Agnelli, qui est quand même un personnage, qui a l'air insolite, t'as un club qui tient la route.
Bien sûr.
Qui se barre de son poste de président.
Je veux dire, un peu bizarre.
Derrière, il y a quand même 2-3 trucs.
Ouais.
Et tu t'aperçois qu'en 48 heures,
par rapport à la Super League, de toute façon, mine de rien, parce que Fred, il le disait tout à l'heure, il n'y a personne qui est tout blanc dans l'histoire. Pour moi, je pense que le fait que la Super League soit venue mettre une pression, c'est parce qu'il y a eu trop de laxisme dans le passé à travers les clubs qui rapportent de l'argent. C'est-à-dire que pas d'interdiction de recrutement, pas forcément de suspension de compétition quand il y a des choses qui sont dépassées dans le fair play financier, etc. Et au final, tu tournes en rond, et au final, on t'a amadoué, voilà. Et au final, c'est les clubs, parce qu'ils savent qu'ils ont eux le pouvoir, parce que c'est eux qui ramènent l'audience, qui disent, les gars, ok, vous nous avez jamais sanctionné, c'est bien, on est allés tous ensemble. Maintenant, on se casse. Et au final, c'est la panique.
Ouais.
Et ça, comme par hasard, ça retrouve des fonds d'investissement, des 3 milliards de plus que les 4 milliards qui sont investis.
Ouais.
Comme par hasard. Comme s'il y avait déjà des pourparlers en interne dont on n'était pas au courant.
Pression, qu'en fait, la Super League.
Bien sûr.
Pression, selon Abdel. Fred aussi.
Faut savoir pour rejoindre Abdel. C'est que, comme souvent, t'as des effets de com. C'est-à-dire que, Agnelli qui. Mais Agnelli qui démissionne et tout. Il démissionne pas comme ça. On va pas le retrouver sur les Champs-Élysées. C'est qu'il y a des intérêts toujours forcément derrière.
Les actions Fiat vont regrimper bientôt.
Bien sûr. Non, mais je veux dire, enfin voilà, même la communication, la bombe que l'on a depuis 2-3 jours.
Donc,
je veux dire, ils sont déjà sur autre chose. Ils sont loin, mais c'est comme partout.
Moi, j'ai une question pour toi.
Allez, vas-y.
Selon ce que tu me dis, toi, il y a 2 jours, Manchester City, Chelsea avaient prévu de rejoindre la Super League, avaient prévu de faire un communiqué et avaient prévu le lendemain de quitter la Super League. C'est ce que tu es en train de me dire.
Tu crois vraiment, je vais dire un truc, tu crois vraiment que les gars, dans la sphère où ils sont, avec les dirigeants haut placés, tu penses vraiment qu'ils arrivent naïvement et ils se disent, au final, on se rend compte que. Mais tu l'es déjà calculé.
Tu peux jamais gérer une entreprise. Un jour, tu dis blanc, 48 heures après, tu fais marche en arrière. Non.
C'est pas la kermesse, hein,
cela.
Ça reste des chefs d'entreprise. Bien sûr.
Et là,
avec des grands avocats,
avec des administrations, tout ce que tu as avec. Tu peux pas. Tu peux pas, effectivement. Je pense que réellement, c'était un coup de média qui a été fait depuis longtemps.
On va voir cela. On reviendra sur la
parler de Pérez, parce qu'on voulait parler un peu de Pérez.
On va revenir sur lui.
Pérez, dans les sondages, il n'était pas bien. Son club n'était pas bien.
Vite. On va voir, Terence. On reviendra sur cette fameuse Super League. Reste avec nous, chers auditeurs et auditeurs de Beurre FM. On accueillera rapidement, de suite après cette première pause, Faro, notre invité.
Time Sport revient dans un instant. 22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, toujours en compagnie du coach Tolé, aussi Abdel, sans oublier Terence et Fred, justement avec moi pour m'accompagner jusqu'à 23h. Et oui, Fred, on parlait de cette fameuse Super League. Avant d'avoir notre invité Faro, justement, on ne sait pas, on nous a dit que voilà, il a eu peut-être un coup de pression, certains présidents l'ont eu, se sont désistés après à ce projet de cette Super League, mais pour d'autres non, ça a capoté quoi.
Moi, d'accord, je comprends qu'il y a une volonté de mettre un coup de pression à l'UFA, mais moi je suis pas trop d'accord avec Claude ou Abdel, je pense que toi aussi tu penses que c'était un coup de pression. Pour moi, tous ces hommes, tous ces clubs qui sont cramés tout simplement, qui ont décidé de se mettre peut-être au porte-à-faux avec leurs supporters, n'avaient pas prévu de faire ça.
Tu penses qu'ils n'étaient pas prêts? Tu penses qu'ils arrivent, ils se sont levés lundi matin en se disant ah peut-être qu'on a fait une erreur.
Ils sont dans une autre sphère, ces gens-là.
Bien sûr,
tant que dans le portefeuille, tu t'y retrouves. Tu peux être hypocrite autant que tu veux, tu pourras te serrer la main, voilà, ça sera fini.
Ils sont obligés d'avoir 3 coups d'avance.
Pression ou pas.
Et ça, c'est obligatoire. Je pense que réellement, ils ont mis un gros coup de pression à l'UEFA, Mais tout était écrit, tout était prévu d'avance.
Bien sûr.
Obligatoirement, ça reste des
peut-être
chefs d'entreprise.
Peut-être que le timing était, on pense, mal choisi, mais qu'ils ont bien choisi maintenant.
Moi, je t'en ai, c'est même pas des gens passionnés. Ouais. Et pour eux, ça reste que du business avant tout.
Moi, je pense que comme souvent, nous, on a notre papier que l'on lit là le dimanche ou le lundi. Et ils sont déjà et sur,
ils ont déjà deux jours d'avance. Mais ils ont déjà
bien sûr. Mais c'est comme partout.
On va voir.
Tu peux pas piloter une entreprise donc comme un club. Ça reste une entreprise à part entière. Et à partir de là, obligatoirement, t'as des coups d'avance.
Allez, on va avoir un coup d'avance, on l'espère en tout cas, qui va nous donner des petites infos. C'est notre invité de ce soir.
Time Sport. The Special One. The Special
One. Eh oui, Faro, que nous accueillons encore une nouvelle fois sur l'antenne de Beurre FM. Bonsoir Faro, comment allez-vous?
Et bonsoir, ça va, merci. J'espère que tout le monde va bien aussi.
Ah ben nous aussi, de notre côté, merci. Tout le monde va bien. Dessinateur de presse, on le rappelle, chez nos confrères de l'équipe, France Football ou encore Yahoo. On aimerait revenir un peu avec vous concernant ce fameux projet de Super League. Hein. On a vu le magnifique dessin que vous avez fait. Hein, l'UEFA, Seferin réagit, c'est monstrueux. Ils sont aussi avides d'argent que nous. Voilà, et c'est signé Faro. On en dit un peu plus sur ce projet. Ça a capoté, certains le diront de cette manière-là, ou peut-être on verra ce que l'avenir nous réservera avec ce projet, on va dire, mis en place d'une certaine manière par le président madrilène Florentino Pérez. Et vous en pensez quoi, Faro? Une bonne chose peut-être pour ce football européen?
Moi, forcément, je vais pas être original. C'est-à-dire que j'en pense pas trop de bien parce que il me semble que le foot est déjà un peu malade, est déjà un peu trop dirigé par l'argent, et ce nouveau projet ne va pas forcément dans le sens où ça devrait.
Oui.
Après, en écoutant les arguments de Florentino Pérez ou autres, il est vrai qu'aujourd'hui tout le monde est plutôt à la recherche de spectacles et lui il proposerait peut-être encore plus de spectacles. Mais bon, moi je reste quand même malgré tout nostalgique des anciennes Coupes d'Europe où tous les pays avaient leur chance, ce qui n'est évidemment plus le cas, même avec l'UEFA.
Oui.
Et ce qui sera encore pire avec ce projet s'il voyait le jour.
Justement, Faro, est-ce qu'on arrive peut-être au moment rêvé de faire une vaste réforme de ce football sur le vieux continent, selon vous? Peut-être comme un peu l'arrêt Bosman, qui a été assez décrié aussi, il faut le rappeler, Faro.
Mmh. Oui, c'est vrai qu'à l'époque de l'arrêt Bosman, c'était une sacrée révolution. C'était d'ailleurs quelque chose de plutôt positif parce que ça permettait aux footballeurs de redevenir un petit peu maîtres de leur destin. On a vu où ça nous a mené. Hein. On en est là aujourd'hui. Une réforme, oui, certainement. Après, sûrement pas dans le sens où ces gens-là veulent aller. Après, est-ce que on sera capable, d'autres dirigeants de football seront capables d'aller dans l'autre sens? C'est pas sûr non plus, parce que de toute façon, tout ce que fait l'UEFA, c'est un peu la même chose. C'est peut-être un peu moins violent, c'est peut-être un peu moins extrême, mais ça va déjà dans ce sens-là. Donc, c'était juste une accélération. Après, moi, ma conviction, ma conviction, c'est plutôt de penser qu'ils ont fait ça plus pour négocier quelque chose encore avec l'UEFA plutôt que pour faire vraiment cette Super League.
Ouais.
Donc, je sais pas. On va voir ce qui va se passer. Mais moi, je sens venir une petite négociation entre ces gens-là et l'UEFA.
C'est ça. Faro, comment se passe avec une bombe qui tombe comme ça dans la planète football? Vous, la préparation de vos dessins? Bon, allez, je vais laisser Abdel parce qu'il en avait une bonne. Abdel, on t'écoute, c'est notre consultant.
Justement, alors, pour compléter la question de Bilal, est-ce que c'est difficile de dessiner des choses dans lesquelles on se reconnaît pas?
Pas forcément, parce que justement, le dessin peut apporter un œil critique. Donc, non, bien au contraire. À la limite, c'est plus difficile de critiquer quelque chose dans lequel on se reconnaît. Donc là, en l'occurrence, une nouvelle comme ça, pour moi, c'est pas un sujet forcément très difficile, parce que justement, j'ai un œil plus critique du fait que moi, je suis pas tout à fait pour cette idée-là. L'inverse, c'est peut-être un peu plus compliqué. Quand si on est plus d'accord avec un sujet, on va être moins critique. même si on est professionnel, donc en même temps, s'il y a matière à critiquer, on critique, même si on n'est pas toujours d'accord.
Moi, alors Fred, on l'écoute avec Faro, notre invité ce soir sur l'antenne de Beurre FM.
Moi c'est une question un peu sur le ton de l'humour, on rit jaune ce soir.
Ouais.
Est-ce que Florentino Pérez va maintenant devenir votre nouvelle tête de Turc?
Ouais.
Ah bah, j'espère.
Il peut, après ça dépend pas tellement de moi, ça dépend de lui, ça dépend de sa persistance à rester dans l'actu. Ça dépend de ce qu'il va faire, de ce qu'il va faire maintenant. Moi, vous savez, je vais réagir uniquement à ce qui se passe. Donc, s'il est en plein dans l'actu, si on continue sur cette info-là, il peut devenir une tête de Turc. Ouais. C'est très possible. Mais ça dépendra de lui.
Voilà, Terence et Abdel, des réactions.
J'avais une question. Est-ce que, par rapport au contexte actuel, si... C'est compliqué de devoir caricaturer des dessins en fonction de sa propre opinion. Si je prends par exemple, vous avez vous-même une opinion propre par rapport à la Super League, et est-ce que vous êtes en devoir, est-ce que vous avez des obligations justement pour pouvoir retranscrire ce dessin de la façon dont vous le souhaitez, le plus adéquatement possible?
C'est-à-dire des obligations par rapport à mes employés.
Est-ce que vous avez une ligne directrice? Est-ce que votre plume peut être totalement libre, ou vous avez quand même certaines contraintes par rapport à des sujets qui peuvent être tendus?
Non, en réalité, je suis libre. Il y a plusieurs façons pour répondre. C'est-à-dire que moi, déjà, je sais à peu près ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible d'une manière générale par rapport aux médias pour lesquels je travaille. Par contre, j'ai aucune ligne directrice de personne, c'est-à-dire que je suis totalement libre de mes opinions et de mes dessins. Après, effectivement, il peut que mes dessins ne soient pas sélectionnés pour être diffusés. Comment ça fonctionne? Par exemple, dans le journal L'Équipe, je propose 3 ou 4 ébauches sur des idées tout à fait différentes, okay, que je choisis moi-même. Et donc ce sont des petites ébauches, et je leur envoie et ils choisissent. Je fonctionne de la même façon avec France Football. Là où c'est un peu différent, c'est sur la chaîne L'Équipe, à la télévision,
oui,
puisque là, c'est du dessin en direct. Là, je suis liberté absolument totale. Mmh. Il y a juste carrément le chef d'édition qui, lui, choisit s'il va diffuser le dessin ou pas. Mais pour être honnête, les dessins passent quasiment tout le temps. Et s'ils ne passent pas, ce ne sont pas forcément pour des raisons de censure. C'est plutôt pour des raisons techniques ou des raisons qu'il n'y a plus le temps parce qu'on passe à autre chose. Voilà. Mais non, là, c'est liberté totale, quoi.
D'accord, okay, merci.
Faro, quel est le dessin que vous avez réalisé qui vous représente le plus? Pas forcément... qui retrace des choses un peu plus profondes ou dans lesquelles vous êtes vraiment senti en lien avec ce que vous étiez en train de dessiner. S'il y en avait un à ressortir, même s'il y en a beaucoup, et heureusement, des très sympas.
Ouais, c'est difficile parce que c'est difficile d'en sortir un parce qu'en général, quand les dessins sont... Bon, il y en a des meilleurs que d'autres, évidemment. Mais globalement, quand un dessin est diffusé, c'est que, bon, il est plutôt... Bon, en général, il me plaît, quoi. Je garde toujours un souvenir, mais c'est un souvenir très, très ancien. Et qui me plaît, qui me rappelle des bons souvenirs, c'était un dessin sur le Ballon d'Or, à l'époque où Ribéry avait failli l'avoir. Et c'était un dessin qui était plutôt marrant, avec Ribéry qui était sur un tas de casseroles mélangées au trophée qu'il avait gagné, mais aussi avec toutes les casseroles qui se traînaient, et il essayait d'atteindre Cristiano Ronaldo, tout ça. Et c'est un dessin que j'avais bien aimé, et surtout il avait eu un succès vraiment énorme. Il avait été partagé dans tous les pays, tout, d'autant qu'il était un dessin sans parole, donc il était encore plus facile à comprendre. Et voilà, j'ai toujours gardé un grand souvenir de ce dessin là parce que il avait eu beaucoup de succès et effectivement il me correspondait assez bien.
Ouais. Est-ce que vous... Alors... Ah, pardon. Vous touchez à tous les sports?
Oui, tout à fait. Ouais. On dessine plus sur le foot parce que c'est quand même le sport le plus médiatique.
Donc vous avez une grosse veille sportive assez poussée. Et de quelle façon vous réussissez à faire la part des choses en fonction des différentes actualités? Je vous explique, par exemple, vous pouvez avoir une grosse affiche aussi bien... Par exemple, un Lyon-Marseille, une grosse affiche en rugby entre un stade français et un Racing. De quelle façon vous allez orienter plus un dessin plus axé sur le foot, plus sur le rugby? Comment vous réussissez à faire la part des choses?
En fait, à ce niveau-là, ça ne dépend pas tout à fait de moi. puisque comme je l'expliquais tout à l'heure, pour le journal L'Équipe, je propose 3 ou 4 ébauches différentes. Et donc, il peut y avoir du foot, mais il peut y avoir d'autres choses. Par contre, le choix éditorial revient à l'équipe de des rédacteurs en chef.
D'accord.
Qui, eux, vont choisir en fonction de ce qu'ils veulent mettre en avant. Ça peut être plus le sujet lui-même. C'est-à-dire que si effectivement, ils veulent parler rugby, c'est peut-être pas parce que ce sera le meilleur des dessins. Ça sera peut-être pas la meilleure proposition, mais ça sera ce qu'eux, ils voudront mettre en avant. Donc, vous voyez, à ce moment-là, le choix définitif de la publication ne dépend pas forcément de moi. Ça, c'est en tout cas pour ce qui est L'Équipe. Et après, à la télévision, on traite beaucoup plus du foot, on ne traite quasiment pas d'autres sports. Et évidemment, pour France Football, c'est que du foot aussi.
Okay. Merci.
Faro, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut dire que le joueur que vous avez le plus caricaturé, c'est Dimitri Payet?
Dernièrement, oui, je pense. À la télé, surtout. À la télé, surtout. Ouais. Après, sur la durée, je pense que... Alors, c'est pas un joueur, mais je pense que Deschamps devrait tenir la palme. Ouais. J'ai l'impression que c'est lui que j'ai le plus fait.
Pour terminer, avec ce coach Tolé, Faro.
J'ai une question.
Oui.
Vous supportez quel club?
J'aimerais savoir.
Je supporte l'OGC Nice en tant que niçois.
Les Aiglons.
Ma ville.
Et vous avez beaucoup caricaturé Patrick Vieira, non?
Pas mal aussi, ouais, bien sûr. Surtout, pareil, à la télévision, j'ai beaucoup caricaturé Vieira. Le coach actuel, un peu moins, parce qu'il est moins médiatique. Les joueurs sont un peu moins des joueurs de premier plan aussi. Mais effectivement, Vieira a été une belle victime pendant plusieurs années. Là.
Et justement, quelle équipe de Nice vous a le plus marqué depuis que vous les suivez?
Supporter de Nice, c'est pendant très longtemps, c'était pas évident. Hein.
Pour faut avouer. Belle génération avec les Kobos et compagnie, quand même.
Oui, aussi, ouais, mais ça, c'était les guerriers, ça. Ouais. Après, au niveau résultat, c'était moyen quand même. Mais non, franchement, les dernières années ont été de très, très belles années. Et les années dirigées par Lucien Favre, c'est surtout la première d'ailleurs, mais même les deux, c'était magnifique, quoi. Il y avait un jeu incroyable. On a battu le PSG plusieurs fois. On a fini troisième de Ligue 1. On a éliminé l'Ajax en tour préliminaire de Ligue des Champions.
Un bon moment.
C'était très bien. Ouais, vraiment, vraiment très très chouette.
Un bon moment aussi, très chouette ce soir en compagnie de Faro. Un grand merci Faro d'avoir été avec nous, d'être revenu sur l'actualité football.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation, c'est un plaisir.
Mais vraiment, on le rappelle, dessinateur de presse, c'est nos confrères, L'Équipe, ou encore Yahoo, et chez aussi France Football. Une très belle soirée à vous, Faro.
Belle soirée.
Merci, bonne soirée.
Merci, et nous on poursuit notre émission avec encore de la Super League au menu.
Time Sport, la troisième mi-temps. La troisième mi-temps.
Ouais, ça promet cette troisième mi-temps. Oh là, c'est justement le président parisien Nasser El Khelaifi qui monte justement au créneau. Et oui, Terence, vraiment pas de club français dans cette fameuse Super League, Fred. Là aussi, on attend des clubs français. Marseille dit non, par l'intermédiaire de son président, Mike Courte.
J'attends pas de club français en Super League. Après, je sais pas si vous avez vu, mais apparemment Agnelli aurait même snobé Jean-Michel Aulas. Parce que je trouve ça dommage. Mais pour l'instant, il y a pas de club français. Il y a une certaine union symbolique qui s'est faite avec l'Allemagne, une union sacrée, une union tacite. Et on va pas se mentir, en Europe, la France a toujours véhiculé certaines valeurs, certaines lumières, et c'est pas maintenant que ça devrait changer.
Attention, parce que moi, le PSG. Si ils l'ont fait, c'est s'ils sont pas dedans, c'est qu'ils ont pris du recul et qu'ils sont pas bêtes. Parce que comme on le disait avec Claude tout à l'heure, le problème c'est que pour moi c'était un coup de pression. Donc à partir du moment si tu rentres dans quelque chose où tu sais que ça ne va pas avoir lieu et que ça ne va pas être mis en place, forcément tu commences à te brûler les ailes. Tandis que si tu vas du côté de la personne qui est en difficulté et de l'institution qui est en difficulté, à savoir l'UEFA, forcément par la suite, et on connaît quand même l'historique du PSG avec l'UEFA, eh ben je pense que d'un point de vue je sais pas comment définir ça, mais d'un point de vue pas pédagogique, mais t'as pris du recul, tu sais que t'as eu beaucoup de problèmes avec l'UEFA, là par la suite ils vont peut-être, si jamais il y a des conflits, peut-être être plus tranquilles avec toi, ils vont moins être sur tes côtes. Et je pense que Paris, d'un point de vue du jugement de trajectoire,
c'est stratégique.
Ah ben bien sûr,
c'est la politique.
C'est une manière de dire rester pour le moment en retrait.
Bien sûr, on attend de voir comment ça se passe.
Voilà, on voit comment ça se passe.
Nous, brûlez-vous les pièces. C'est comme si t'envoies un petit jeune comme ça tester. Toi, avec plus d'expérience, tu dis bon, si lui l'a réussi, moi je vais y aller. Bon, par contre, si c'est mort, je préfère pas y aller. Et je pense que quand même, ils ont été très intelligent de ce point de vue-là parce que.
Donc c'était voilà. un coup monté en fait, c'était pas une mascarade pour toi si tu dis que Paris a regardé si ça allait tenir ou pas.
Parce que
pas une mascarade.
Mais si, parce que je l'ai expliqué dans le début de mon propos. À partir du moment où tu t'engages pas dedans, tu sais que ça, c'est quelque chose qui va pas se faire, etc. Comment tu peux ne pas mettre Paris qui est peut-être le club le troisième ou le quatrième le plus riche. Donc à partir de ce moment-là, si tu sais que ça va pas se faire et que c'est un coup de pression, tu vas pas aller te brûler les ailes parce que déjà t'es en conflit plus ou moins souvent avec l'UEFA. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, ils ont bien jaugé la chose, ils sont restés en retrait. Pour une fois que Paris reste en retrait, ouvre pas trop son bec, et on sent que cette année ça se fait de plus en plus avec Nasser et Leonardo qui sont pas dans les médias. C'est une continuité de cette année dans la gestion de parole. Et à partir de là. Voilà. Après, on parle de Paris, mais il y a quand même Olas aussi.
Sur Perez, si je te dis pas de bêtises, en moins de 24 heures, il a quand même dit à la base, quand la Super League est sortie, on n'a pas besoin du PSG, on veut pas du PSG. Et le lendemain, finalement, le PSG est ouvert dans le club des 15.
Ah, justement. Le PSG et le Bayern finiront par nous rejoindre.
Oui.
Tout simplement.
Et donc, en fait, en moins de 24 heures, t'as quand même Perez qui gère le Real Madrid et qui est à la base de ce conflit.
Ouais.
Qui fait un retour en arrière sur des déclarations qui sont pas bonnes.
Et pourtant les Français
parce que je pense que réellement 24 heures après il a vu que son projet est tombé à l'eau et que tout le monde allait faire machine arrière et
donc c'était pas une mascarade, c'est ce que je dis.
Ouais.
De la manière où tu traduis dans la manière dont vous traduisez dans
les événements,
vous montrez qu'en fait c'était pas une mascarade,
mais si
en fait il navigue au trouble.
De la façon dont tu le ressens. Non, moi je reste sur ce que je te disais historiquement à la base.
Ouais.
Je pense qu'effectivement c'est des gens qui sont chefs d'entreprise qui gèrent leur bateau.
Ça reste du football, hein.
Ça
reste un milieu assez.
Mais le football, ça reste du business.
Il y a des grands businessmen qui sont dans le foot et qui sont foirés, hein.
Aussi.
C'est politique, hein.
Ça reste juste politique. C'est de se dire, on met un coup de pression à l'UEFA pour récupérer derrière.
C'est quoi? La politique, encore une fois, c'est quoi? C'est la communication, c'est le journal, le papier qu'on achète le dimanche et le lundi. Ils sont déjà sur autre chose.
Et t'as déjà 60.
Déjà ce qu'ils vont passer dans 6 mois.
T'as déjà 6 mois d'avance. Mais tu prends tous les chefs d'entreprise. Regarde juste.
Et de toute façon,
on parlait de l'OL.
Ils arrivent à nous faire parler sur des choses qui sont déjà passées.
On fait juste le parallèle avec l'OL. Tu prends Lyon, Olas. Pas spécialement fan de Lyon.
Qu'est-ce qu'il disait Olas il y a quelques années?
C'est lui qui était président.
Il n'avait pas envie de s'immiscer dans un.
Olas voulait rentrer dans ce système-là. Ça a quand même été le premier président à avoir une entrée en bourse.
Ouais.
Et donc, je suis désolé. Un club de foot est une entreprise à part entière qui est gérée effectivement par des gens qui adorent le foot.
Ouais.
Qui maîtrisent le sujet.
Ouais.
C'est plus vraiment le cas d'ailleurs.
Pour certains,
le foot, c'est pas de la manière dont.
Si tu prends
pas la famille Glazer, par exemple.
Sauf que la famille Agnelli, je suis désolé, ça fait quand même un paquet d'années.
Ça fait pas mal de temps, c'est vrai.
Qui gère la Juve. Ok, tu me parles de la famille Glazer. La famille Glazer, c'est juste un fonds de pension. Terminé, point barre. Ils mènent des billes, ils cherchent une rentabilité. Si tu prends un City, il a été chercher le club. Il va aller que dalle. Maintenant, il en a fait une grosse puissance.
C'est un club de première ligue, quand même. Hein.
Ouais, mais.
Non, mais bas fond de première ligue. Hein.
Oui, mais ça reste la première ligue.
Oui, mais ça restait un bas fond. Ça restait, tu prends.
C'est pas un bas fond de jouer en première ligue. Je peux pas entendre ça.
Non.
La réalité, c'est que le football, on est d'accord avec toi à la base, le football, ça génère énormément d'argent. Bah, tout le monde va s'immiscer dedans, tout simplement.
Regarde, Abramovic, il est venu à Chelsea, t'es pourquoi?
Un businessman, tu vas dans les secteurs d'activité où ça peut te rapporter. Nous, à notre niveau, on en a aussi. Non,
c'est simple, les secteurs d'activité.
C'est un oligarque et il n'est pas venu à Chelsea pour faire de l'argent. Abramovic, c'est un oligarque. Il n'est pas venu à Chelsea pour faire de l'argent. Je pense qu'il en a plus perdu que ce qu'il en a gagné.
Ouais.
Il est venu pour d'autres intérêts que économiques.
Il n'a jamais voulu faire du business.
Il a pas gagné de l'argent avec Chelsea, mais il a gagné en autorité par contre.
C'est quoi sa boîte qui est derrière? Donne-moi juste le nom de sa boîte. Il gère pas Gazprom. Gazprom, c'est pas le premier diffuseur de gaz limite au monde. Donc je suis désolé, effectivement, peut-être pour lui ça reste un fan de foot,
mais ça reste un petit patrimoine, le fait d'avoir Chelsea.
Mais derrière, ça reste pour lui, ça peut pas être un jouet pour lui parce que ça reste sa passion. Mais derrière, il fait tourner son business. Quand il va te chercher des Drogba qui paye à l'époque, qui paye 30 millions.
Oui, d'accord. Sauf qu'il
va te chercher de l'oseille. Tu prends les 15 clubs de Super League.
On sait.
T'as que des chefs d'entreprise sur les 15 clubs de Super League. Ok. Ouais. Sauf si tu prends United, qui est un fonds de pension américain, c'est encore une autre thématique. Peut-être aussi à contrat au Liverpool. Sinon, tu prends tous. C'est tous des pionniers de l'entreprise.
En fait, je vous coupe rapidement, ça dérange parce que tu parles des clubs européens, avec Liverpool, c'est des Américains,
ouais.
Arsenal, c'est des Américains, ouais. Manchester United, c'est des Américains.
C'est des fonds
de pension. Et eux, le modèle qu'ils veulent mettre en place avec cette Super League, c'est le modèle à l'américaine de la Ligue fermée, comme une
fois. On va revenir sur cette fameuse Super League qui fait tant parler et débattre sur cette antenne de Beurre FM. Rendez-vous juste après la dernière pause.
Time Sport revient dans un instant. 22h, 23h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
De retour sur l'antenne de Beurre FM pour cette dernière partie, toujours en live jusqu'à 23h. On parlait de cette fameuse Super League. Alors, on essaiera aussi de parler du championnat nord-américain qu'est la NBA. On s'attarde sur nos clubs français. Excusez-moi, j'ai plus de voix. Olas et le président parisien El Khalifi. Que dire? Parce qu'on a, on l'a vu. Petite correction, hein. Il y a eu quand même, dans les années 50, c'était nos confrères de l'équipe, hein, qui avaient prêté justement une idée, qui était de la création de cette Coupe d'Europe Interclub. La FIFA s'était opposée, justement, l'UEFA après. Oui, oui, tu l'appelles comme tu veux. C'était une Coupe d'Europe, en tout cas. Non, mais c'est ça. Coupe d'Europe des clubs. Voilà. Ça, faut le rappeler aussi. Faut le rappeler. Ça venait pas d'ailleurs, hein. C'était en France. Messieurs, dames, mais, voilà, faut le rappeler. C'était en France, la FIFA n'était pas d'accord, l'UEFA ne l'a pas rapporté aussi.
Mais tu prends à contrario, il y a peu de temps.
Je le rappelle.
Dans les années 90, à l'époque, t'avais trois coupes. Hein. T'avais la Ligue des Champions,
oui,
t'avais l'UEFA, la Coupe des Coupes.
Là, je parle d'une création.
Et t'avais l'UEFA.
Et tu t'avais. Je parle d'une création de coupe. Terence, je parle d'une création, Abdel. Je parle d'une création de coupe qui n'était pas au début homologuée par la FIFA et après par l'UEFA.
Okay.
Voilà. Mais c'est juste pour remettre les choses au clair.
Mais tu, à partir du moment, bon, il y a une création qui est pas forcément acceptée, ça c'est un fait. Mais à partir du moment où tu veux créer une évolution, pour
et
moi,
c'est la fameuse Champions League que l'on a aujourd'hui. Hein.
Non, mais à partir de ce moment-là, quand il y a une évolution, forcément, c'est que tu changes des choses, donc tu crées quelque chose de nouveau et t'insuffles quelque chose de nouveau dans la compétition. Le seul problème, c'est que quand c'est pas toi qui est le maître des rênes, ça te met tout de suite en panique, t'es tout de suite en difficulté. Là, tu parles.
C'est pour cela, ça fait peur.
De Lyon, pour moi, je le disais juste avant la pub. On voit beaucoup moins Olas parler cette année depuis que Juninho est arrivé au club. Leonardo et Nasser El Khelaifi parlent beaucoup moins, se font beaucoup moins présents dans les médias. Et à partir de ce moment-là, quand il y a eu cette Super League qui est annoncée, Paris n'est pas dedans, Paris est dedans, etc. Paris a pris beaucoup de recul parce que, on va le répéter encore une fois, mais il y a eu beaucoup de problèmes avec l'UEFA. Et à partir du moment où tu sais que c'est un coup de pression et que ça va pas se faire, t'as pas envie de te brouiller encore plus avec une institution qui te met déjà en difficulté. Et je pense qu'il prépare déjà ça pour le futur. Si jamais Paris ou Lyon ou le Bayern ont des soucis, que ce soit, bon, il n'y a plus de fair play financier, mais que ce soit avec des extra sportifs, etc., je pense que l'UEFA sera plus clémente parce qu'ils ont apporté leur soutien, ces clubs-là. Mais Claude, il le disait avant la pub, on ne l'a pas laissé terminer son propos, mais Olas, dès qu'il a commencé à créer, avoir son club, avoir une entrée en bourse, etc., il a voulu faire partie des encore plus de l'élitisme
de ces clubs fermés.
Donc c'est bien beau que monsieur Le Graët ait dit je félicite mes présidents, etc., mais quand ça ne va pas dans ton sens, c'est sûr que tu vas pas pousser le truc. Si tu l'avais poussé le truc, tu serais pas hypocrite. À partir de là, c'est de l'hypocrisie pure et dure.
On est clairement dans un monde d'hypocrite, dans la mesure où clairement, aujourd'hui on te propose de gagner trois fois plus, c'est ça. En rentrant, je vois très peu d'entreprises
ne pas vouloir faire du profit, et des bénéfices.
Non, d'accord, mais le consommateur, c'est qui?
Ah, mais c'est pas le problème.
Non, mais
attends. Il y a un moment, demain, t'es chef d'entreprise.
Ouais. C'est les droits TV, c'est les gens qui vont souscrire.
Mais sauf que t'as eu la même problématique avec quand quand il y a eu la session là entre la Ligue 1, les championnats anglais.
Les gens vont arrêter les abonnements par rapport à ça. Je veux dire, il y a un public dont on oublie les peut-être ceux de ton âge ou plus jeunes.
Ouais.
Ils n'ont pas connu les anciennes coupes d'Europe.
Ouais.
Ils ont grandi avec les images, les vidéos YouTube, etc. Eux, demain, tu leur proposes la Super League. Ils la valident.
Ouais. Je crois qu'ils pourraient la valider.
Pose la question.
Ouais.
Et ça reste l'avenir. Et ce sont eux qui à l'avenir vont être amenés à mettre les sous.
C'est l'argument que Florentino avance.
Ouais.
Là-dessus, qu'on soit d'accord ou pas, c'est une réalité.
Ils veulent aller jusqu'à
la nouvelle génération aussi. Hein.
Non, oui, mais sauf que c'est pas un enfant de 15 ans qui va décider de ce qu'est le foot, qui est un sport.
Il va consommer. Ouais. Demain, Super League, il consomme.
Ouais, c'est un consommateur, ça tu peux le dire. C'est vrai.
C'est pas obligé que de regarder, Claude.
Bien sûr, moi j'ai grandi.
C'est acheter les produits aussi.
J'ai grandi avec la Ligue des Champions.
Je pense que toi aussi tu la regarderais. Alors que t'as pas 15 ans.
La Ligue des Champions en clair, avec des affiches en clair aussi.
Déjà aujourd'hui, le football, je regarde beaucoup moins. Parce que là, je ne me reconnais pas, moi. D'accord.
Dans Merci. Champions, ça fait peur. Si Claudie regarde moins.
Je ne quasiment plus. Donc, je vais te dire une chose. Demain, il y a la Super League. Ça ne m'intéresse absolument pas.
Oh là là, Claude.
Un mec
le coach.
Tu suis le foot depuis longtemps.
Chacun est libre. Après, chacun est libre. Moi, je ne vais pas critiquer un mec qui... Chacun est libre. Moi, je te dis que ça ne m'intéresse pas.
Non, mais...
Le foot d'aujourd'hui... Moi, je m'ennuie.
C'est plus trop la tasse de thé.
Mais ouais. Non, mais la Super League, tu vas chercher une autre niche, et c'est une niche qui a de plus en plus dans les stades. Ça veut dire les personnes qui sont là juste pour voir 22 mecs taper dans un ballon. C'est très vulgaire de dire ça, mais tu vois un mec faire un geste technique, tu vois un mec mettre une belle lucarne. Et ben pour eux, les 120 euros qu'ils ont mis pour une place au premier rang, c'est rentabilisé. Alors que c'est pas ça. Je pense. La plupart et la majorité de ce que défendent les clubs et les supporters depuis qui sont sortis devant les stades et même sur les réseaux sociaux, c'est cette Super League ne va pas transmettre et ne va plus transmettre d'émotion. Et c'est ça qu'on recherche en fait quand t'apprécies le football. Peu importe que t'aies 15 ans, que t'aies 20 ans, t'es éducateur, t'arrives à faire vivre des choses à tes enfants pendant un match interquartier qu'ils n'arrivent pas à retrouver dans un match à la télé. C'est vrai que c'est un peu, on va dire, dommage. Et la consommation de ce football, c'est pas forcément acheter des abonnements, etc. C'est acheter des maillots avec le patch Super League, acheter des écharpes.
Oui.
Voilà, c'est quelque chose comme ça. Et malheureusement, on n'était pas dans ces prérequis-là quand Florentino Pérez il a annoncé cette Super League. Et ce qui est dérangeant, c'est que, comme l'a dit Claude, ils ont de l'avance, malheureusement. Alors, nous, on est en train de parler de choses qui se sont passées peut-être il y a deux jours, et eux, ils sont déjà très, très, très loin.
Vas-y.
Je t'en prie, si je peux finir mon
allez,
propos.
Allez, vas-y, Abdel.
Ce qui m'a dérangé, c'est que
la curie qui nous attend.
Là, c'est plus un propos. Là.
Non, mais on a fait beaucoup.
Abdel est dans l'habitude. C'est les tribunes d'Abdel.
Fred.
Allez, vas-y, Abdel.
Non, on a fait beaucoup de spéculations, mais à partir du moment où il n'y a pas de document officiel et qu'il n'y a pas d'écrit, eh ben, ça servait à rien de parler. On pouvait supposer, mais on s'est trop emballé pour moi. Et aujourd'hui, c'est le bon revers de la médaille.
Non, alors,
la réaction de l'opinion publique reste l'opinion publique. Et même s'ils peuvent faire des plans sur la comète autant que vous voulez, même sur 5 ans, même sur 10 ans, l'opinion publique, la réaction de l'opinion publique, ça malheureusement, et heureusement plutôt, ils ne peuvent pas l'interpréter. Après, je veux revenir sur ce que tu disais, Claude, sur le fait que les matchs sont de moins en moins intéressants. Mais c'est un cercle vicieux tout ça. Pourquoi les matchs sont de moins en moins intéressants? Parce qu'il y en a de plus en plus. Parce que les joueurs jouent 2-3 matchs par semaine. Et parce que les joueurs jouent trop de matchs. Ce qu'on voit dans les matchs, c'est moins intéressant.
Ouais, je suis pas d'accord avec toi. Je trouve que dans le contenu, excusez-moi du terme, mais ça ressemble plus à rien.
C'est parce qu'il y a trop de matchs. Du coup, les joueurs ne.
Je n'ai pas dit forcément qu'il était moins intéressant, mais c'est que je rejoins ce qu'a dit Abdel. Il y a moins le côté émotionnel.
Bien sûr.
C'est-à-dire que déjà, à partir du moment où tu as eu la création, et là, je parle de l'UEFA, parce qu'on parle de Super League, mais moi, je reste d'abord sur l'UEFA, la Ligue des Champions, la manière dont elle a été montée de toutes pièces avec les groupes. Tu le vois même là, quand le PSG dans les matchs de poule et tout. T'as deux, trois matchs, mais après t'as au moins deux matchs qui servent plus à rien. Il y a pas l'émotion. Tu la retrouves réellement dans les matchs aller-retour.
Mais c'est pas
alors. C'est un match aller-retour. Ouais. C'est pas un match de poule. Et il y a que dans ces moments-là qu'on retrouve justement.
Je suis
désolé.
Je suis pas sûr que si tu prends juste le niveau d'audience.
Alors rapidement, on doit parler de basket.
Sur un PSG Bayern, t'as moins d'audience. Mais moi le premier, pourtant, qui suis fan aussi de sport, mais à contrario, effectivement, en rebondissant sur ce que disait Abdel. Mais on est sur une niche par rapport à la Super League. Et si les gens de l'oseille à mettre, ils auraient mis les 10 balles dans leur.
Rapidement.
Dans leur abonnement.
Ouais. On termine. Non, allez, rapide, de Fred. On doit parler de basket avec Abdel.
Claude, tu parlais du fait que les phases de poule n'étaient plus intéressantes. Peut-être que pour Paris.
Non,
mais moi, personnellement, quand j'ai vu mon club Valence se qualifier en 8ème, en phase de poule Champions League, alors que ça faisait un bon moment qu'on s'était pas qualifié, chaque match, chaque minute, je la dégustais. Il n'y avait pas un moment où.
T'es Valence qui a été en
difficulté.
Ce qui est marrant, regarde.
Ouais. Il y a
un exemple qui est vachement intéressant, c'est on parle de l'Ajax.
Mais réponds mon exemple, Claude.
Ton exemple.
Carrément, eux, ils se font des dissertes entre eux. Ouais, réponds vas-y.
L'exemple que tu as avec Valence qui a été en difficulté, on est d'accord, durant de nombreuses saisons, donc là, tu les retrouves. Donc forcément, tu retrouves cette émotion-là. Mais les clubs comme Manchester, les
City, on parle de 10 clubs,
le PSG, non mais le petit,
tu parles de 10 clubs.
Laisse-moi finir.
Valence, ouais. Vas-y, finis.
En finale de Ligue des Champions,
oui, c'est vrai. À une époque,
les clubs, les clubs de l'Europe de l'Est n'existent plus. L'Ajax, on parle de l'Ajax. Comme quand j'entends parler de l'Ajax aujourd'hui, ce qui montre que les choses ont évolué, on en parle comme un petit club, comme une surprise. Les gars ont gagné 3 fois la Ligue des Champions.
Clairement.
Dans les années 70. Exactement.
Avant l'arrêt Bosman, c'était.
Parce que tu retrouves toujours les mêmes. Donc il y a un moment, je suis désolé.
Il y a plus. On va se reposer. N'énerve pas au coach. Il doit aller dormir en plus. Demain, il a une grosse journée.
Et tu vois, ce qui est vraiment dommage, c'est que Valence, par exemple, ne serait pas entré en Super League.
On a un supporter de Londres, des Blues de Chelsea, qui nous écoute depuis la capitale britannique. C'est Hamid. Et voilà, qui dit tout à fait d'accord avec Fred. Allez, la dernière rubrique.
C'est même pas qui c'est.
Time Sport. Les prolongations.
Abdel, tu veux quoi? Tu veux le numéro de téléphone de l'auditeur? Tu veux quoi?
Je compte qu'il
son adresse. Arrête quand même. En tout cas, il est là, il nous écoute. Hamid, il est super sympa.
Salut Hamid.
Allez, on lui donne le bonsoir à Hamid. Justement, on va parler de Stephen Curry. Eh oui, Stephen Curry, c'est 11 matchs de suite à plus de 30 points. Victoire contre les Sixers. Premier de conférence Est, Abdel. Prétendant peut-être au titre MVP avec Jokic. Gros questionnement, justement, messieurs. Oui, va-t-il emmener les Golden State en play-off? Et là est le mot.
Sur la stat que tu as donnée sur les 11 matchs où il marque plus de 30 points, c'est pour les joueurs qui ont plus de 33 ans ou plus. Ils dépassent quand même des mecs comme Jordan, comme Kobe Bryant. C'est des gros noms de ce sport-là.
Et là, on forme en ce moment. Hein.
Ben, il a connu une grosse disette, honnêtement, avec les Warriors. Ouais. Mal entouré, lui blessé.
La blessure quand même, faut le rappeler.
Pas capable d'enchaîner les matchs. Et à l'heure actuelle, on sent qu'il y a vraiment un regain de forme, que c'est le Curry qui peut shooter de n'importe où, qui peut rentrer pas mal de points. Et ça, c'est vraiment très dangereux pour les adversaires, sachant que, oui, pour moi, dans la série actuelle, il est capable de les emmener en play-off. Et ça, sans aucun souci. Il peut mener l'équipe au sommet tout seul.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est on va pas se mentir, la saison dernière, il a fait une saison out, Stephen Curry, et c'est vrai que personne n'attendait à ce qu'il revienne à ce niveau-là. Abdel, je sais pas si toi, je sais que tu es un peu plus Stephen Curry, mais personne s'attendait à ce qu'il revienne à ce niveau. Et là, depuis le 10 avril, il a mis 54 tirs à 3 points.
Mais c'est facile. Mais
les grands joueurs qui arrivent à revenir de longues blessures, c'est un gros mental, c'est important.
Alors effectivement, pour moi, c'est un super joueur, mais je suis désolé, je prends plus.
Alors,
j'ai plus aucun intérêt à voir un match de NBA.
Pourquoi
j'ai plus de 40 ans.
Alors vas-y, dis-nous.
Non, regarde, moi j'ai plus de 40 ans. J'ai regardé, t'avais les gros shooters à l'époque, t'avais les Ray Allen, ainsi de suite. Sauf que les mecs, t'avais une équipe qui était autour. Là, tu prends Curry va tirer de 40 mètres. Il tire du rond central. Il prend combien de tirs par match? C'est plus du basket. T'as plus de fond de jeu. T'as plus rien. Et effectivement, statistiquement, c'est des mecs. Mais c'est pas. Je suis désolé, pour moi, c'est pas un meneur d'homme. Donc, statistiquement parlant, il va te sortir des stats de dingue. C'est un super joueur. Mais personnellement, j'ai plus aucun intérêt à regarder un match de NBA. J'ai plus aucun kiff à regarder un match de NBA. Avant, je me levais à des 2, 3 heures, 4 heures pour regarder un match.
Tu te levais ou tu te couchais?
Moi, je faisais un peu des deux. J'ouvrais un œil en même temps.
Mais Terence, tu dis quelque chose. C'est vrai que.
Ça, c'est fort quand même.
On parle beaucoup de football dans l'émission, mais on dit qu'il y a des leaders par la voix, des capitaines, et il y a des mecs qui sont leaders techniques. Lui, malheureusement. C'est peut-être pas quelqu'un qui parle beaucoup, etc. Mais à travers ses performances et les points qu'il met et les matchs qu'il fait gagner, c'est comme ça qu'on le voit à Golden State. Et je pense que c'est un rôle qu'il prend à cœur. Après, quand t'as suivi et que t'as vu des collectifs, des Dream Team, c'est vrai que forcément, t'es plus en kiff. et t'as plus les frissons comme on a fait la relation avec le football tout à l'heure.
Ouais. De toute façon, Stephen Curry, la question, ce sera toujours surcoté ou sous-coté, hein. Simplement.
On verra bien, justement. On s'intéressera de près à
ce bon joueur.
Ça reste un super joueur. Ça reste un super joueur.
C'est pour ça que surcoté ou sous-coté.
Et là, le niveau.
Sauf que tu prends, si vous me faites le parallèle, là, vous me sortez des stats, il est meilleur que des Jordan.
Rapidement.
Au niveau du nombre de points. Sors-moi les stats.
Non, à plus de 33 ans, attention. C'était bien précisé.
Sauf que Curry, et il prend combien de tirs par match? Il y a qui dans son équipe? Tu prends Jordan à 33 ans, il devait encore être à l'époque aux Bulls, ouais. t'avais encore des mecs qui sortaient des stats.
Ouais. Merci. Merci à vous, messieurs, Abdel, Terence, merci le Coquetolé et aussi Fred. Un auditeur qui dit merci aussi aux gars pour le moment de NBA, c'est Arvin. Voilà, un fervent auditeur de Beurre FM. Oui, une dédicace, vas-y.
Allez, une dédicace à Papy et Brandon qui nous écoutent.
Ah ben voilà, Papy et Brandon, voilà le bonsoir à eux. Ouais, ben c'est bien Papy et Brandon. Ouais, c'est des bons. Yanis aussi nous écoute et vous le retrouvez de suite Yanis après l'émission avec Vanessa, 23h, 1h du matin. Et nous, demain, on revient à partir de 22h pétante. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 22h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.